L'affaire Légeret, le mystère du triple meurtre de Vevey. Le 4 janvier après-midi, l'interrogatoire de Simon par la police ne donne rien. Les enquêteurs notent tout de même son manque de réaction émotionnelle lorsqu'il apprend la nouvelle de la mort de sa mère. Au domicile de Simon, on ne trouve rien de compromettant. Les nouveaux soupçons se portent alors sur François, le dernier de la famille. Il a 41 ans, a divorcé à deux reprises et n'a pas d'enfant. Il vit dans une grande maison qu'il occupe seul, en pleine nature, au mont de Corsier. Le cadre de vie est idyllique. Depuis son jardin, on a une vue plongeante sur le lac. Il possède des chevaux, des alpagas et des ânes. Infirmier de formation, cet amoureux des animaux ne travaille plus depuis 2 ans. Lorsque les policiers viennent chez lui pour l'interroger pour la première fois, son attitude interpelle. Lorsqu'il toque à sa porte, personne ne répond. Les policiers décident d'attendre devant chez lui jusqu'à ce qu'il rentre. Au beau milieu de la nuit, il remarque de la lumière à l'intérieur. François était donc chez lui depuis tout ce temps, mais il a décidé de ne pas répondre aux policiers. Lorsque ces derniers toquent une seconde fois à la porte, au matin du 5 janvier, François les reçoit, hagard. Il n'a aucune réaction lorsque les policiers lui demandent s'il est au courant de la mort de sa mère. Il est interrogé toute la matinée et n'omet aucun détail sur les rapports qu'il entretient avec sa mère et ses relations conflictuelles avec Simon. Dans l'après-midi, il est vu par un médecin légiste qui prélève son ADN. François est de nouveau entendu en fin de soirée. L'audition va durer jusqu'au petit matin, le 6 janvier 2006. François déclare avoir rendu visite pour la dernière fois à sa mère, le 16 décembre, chez sa coiffeuse Nathalie, comme elle s'y rend d'habitude tous les vendredis. En ce qui concerne Marie-Josée, sa sœur disparue, il ne sait pas où elle est. Il raconte être brouillé avec elle depuis quelque temps. Il l'accuse d'essayer de mettre la main sur l'argent, de tout faire pour l'éloigner de sa mère. Pour résoudre cette affaire criminelle, il faut suivre la piste familiale. Marie-Josée pourrait également avoir sa part de responsabilité dans ce crime. Après tout, on ne l'a toujours pas retrouvée. Il s'avère que la fille de Ruth souffre de troubles mentaux. Elle n'est pas suivie psychologiquement par un médecin, son état n'est pas diagnostiqué cliniquement, mais selon les premiers témoignages, son comportement est typique d'une personne qui aurait des troubles psychiques. Les enquêteurs apprennent que Marie-Josée Légeret se rend régulièrement en Italie, à Zagarolo, une commune proche de Rome, pour rencontrer un prêtre exorciste. Un prêtre qu'elle a connu par le biais de Marina Studer. Le but de ces consultations régulières est de se libérer d'un sortilège lancé par un sorcier qui aurait croisé sa route lors d'un voyage humanitaire en Ouganda quelques années plus tôt. Marie-Josée répétait à qui voulait l'entendre que la villa du drame était parasitée par de mauvaises vibrations. Les enquêteurs sont certains d'une chose, ce n'est pas le mauvais sort qui a tué ces deux dames. Le meurtre à la suite d'un coup de folie n'est pas à exclure. Les enquêteurs reconstituent l'emploi du temps des deux victimes. Ils savent que la mère et la fille ont été aperçues dans le centre-ville le 23 décembre en journée, puis qu'elles ont été rejointes dans l'après-midi par Marina, qui avait vraisemblablement fait la route depuis Bâle. Aucun témoin ne les a revues ensuite, à l'exception de Marie-Josée Légeret à la caisse d'un supermarché, le 24 décembre à 11h45, comme en témoigne son ticket de caisse. Sa présence a tout d'une tentative d'alibi. En effet, dans le domicile, on ne retrouve aucune trace des achats réalisés par la fille de Ruth. De plus, le facteur qui avait déposé le colis déclare s'être présenté au domicile entre 10h et 10h30. Personne n'a répondu. Les enquêteurs supposent que la mort de Ruth et Marina remonte au matin du 24 décembre, avant 10h. Dans le salon, ils trouvent également un programme télé ouvert à la page du 24 décembre. La mèche de cheveux présente dans la main de Ruth s'avère appartenir à Marie-Josée. Jusque-là, tout semble la désigner coupable. Et si c'était quand même François ? L'affaire est très ambiguë, car la paire de ciseaux retrouvés sur les lieux du crime porte les traces ADN du fils adoptif. De plus, une vieille amie de Ruth, dont le témoignage sera entendu pendant le procès, affirme que mère et fils ne s'entendaient plus. Comme le diront d'autres témoins, François a toujours montré un vif intérêt pour l'argent, et ce, dès le plus jeune âge. il se vantait de la fortune de son père. Quelques semaines avant le double meurtre, il avait exprimé sa volonté de reprendre seul la gestion des immeubles confiés à une gérance immobilière de Vevey. Quant à Simon, une nouvelle audition permet de l'innocenter, car il dispose d'un alibi très solide pour le jour du meurtre. Le 24 décembre, il déclare avoir été chez des cousins pour préparer le réveillon de Noël avec son épouse. Il n'a pas quitté son domicile de la journée, excepté pour se rendre sur les lieux de la fête. Son épouse peut le certifier, ainsi que les 20 convives présents ce jour-là. François, le fils adoptif, n'a pas d'alibi quant à lui. Au matin du 24 décembre, personne ne peut attester de son emploi du temps. Pour sa part, il déclare qu'il a fait des courses pour la petite fête de Noël prévue chez les parents de sa compagne Virginie, avec qui il ne vit pas. Cette dernière, également interrogée par les enquêteurs, n'est pas en mesure de confirmer l'emploi du temps de François pour la matinée. Virginie dit simplement que François est arrivé chez elle ce jour-là vers 15h. Il avait l'air tendu, un comportement qu'elle ne lui connaissait pas habituellement. Elle a remarqué également une éraflure au niveau de sa pommette gauche. Lui dit que c'est son berger allemand qui l'a griffé en voulant jouer. Virginie ne s'est pas plus inquiétée que ça. Le couple est parti chez ses parents vers 16h30, François ne semblait toujours pas avoir retrouvé sa sérénité. Une fois sur place, il a subitement déclaré qu'il avait oublié d'aller nourrir ses animaux. Il a pris la voiture, il était 17h, et n'est revenu que 2h30 plus tard, vers 19h30, pour le dîner. En creusant un peu plus dans la personnalité de François, qui a un mode de vie assez marginal, sans travail et avec une vie sociale réduite, on découvre une face plus sombre derrière la personnalité douce et attentionnée. François tient régulièrement des propos paranoïaques. Il a l'impression que toute la famille s'est liguée contre lui et sa mère pour lui refuser l'accès à l'héritage. Virginie le confirme, François peut se montrer très autoritaire contre toute personne pouvant aller à l'encontre de sa volonté. Et ce, même s'il s'agit d'un ami de longue date. Il ne fait aucune distinction, aucun traitement de faveur. Le 2 février 2006, le juge d'instruction Jean-Pierre Chaton ordonne l'arrestation et le placement en détention provisoire de François. Une analyse ADN sur le col déchiré de la robe de Ruth Légeret l'a trahi. Avec la trace ADN retrouvée sur la paire de ciseaux, ce sont des preuves suffisantes pour l'inculper. Il y a également d'autres indices qui ne font qu'augmenter la suspicion, notamment ses problèmes d'argent. Ces derniers mois, François risquait le découvert bancaire en permanence. En un an, il a été renfloué de 150 000 euros par sa mère, soit environ 12 000 euros par mois. Des lettres sont retrouvées à son domicile qui démontrent la farouche opposition de sa sœur, Marie-Josée. D'ailleurs, cette dernière est toujours introuvable. Les enquêteurs supposent que François a voulu la faire taire. Plus de 2h30 d'absence en fin de journée du 24 décembre, cela peut être suffisant pour dissimuler des preuves et faire disparaître un corps. François aurait pu placer la mèche de cheveux de sa sœur dans la main de la vieille dame pour la faire passer pour coupable. Le juge d'instruction souhaite recueillir les aveux de François. Contrairement à ses premières déclarations, il dit qu'il était bien présent chez sa mère le 24 décembre en fin de matinée. Malheureusement, il déclare que sa mère était déjà morte lorsqu'il est arrivé. Sa sœur Marie-Josée lui aurait ouvert la porte de la villa en panique. Elle lui aurait parlé d'une bagarre qui a entraîné la chute de sa mère dans les escaliers. Marina Studer est morte également, mais cette fois-ci, ce n'était pas un accident. C'était Marie-Josée qui l'avait tuée pour qu'elle n'appelle pas la police. François déclare avoir aidé sa sœur à déplacer les corps pour faire croire à un accident. Ce qui explique son étrange attitude dans la journée qui a suivi le drame. Le juge d'instruction n'en croit pas un mot et ordonne une reconstitution. Le 24 août 2006, François Légeret quitte la cellule de la prison de Lausanne pour se rendre à nouveau au 26 Sentier des Ruérettes, chez sa mère. Il rejoue la scène avec des détails bien précis. Pour le juge d'instruction, cette connaissance des faits atteste de sa présence sur les lieux du crime. Un procès peut se tenir, les charges sont suffisantes pour accuser François Légeret de double meurtre. François Légeret choisit de se faire représenter par Maître Étienne Campiche. Au procès qui s'ouvre le 18 juin 2008 au tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, l'avocate de l'accusé mise tout sur l'absence de témoins et de preuves matérielles déterminantes. Selon la défense, la présence de l'ADN de François, qui était si proche de sa mère, ne prouve pas sa culpabilité. De plus, il manque des éléments dans le dossier, comme l'empreinte de chaussures Caterpillar et la trace de main retrouvée au dos du pull de Marina Studer qui n'ont pas été identifiées. Lors du procès, François Légeret ne fait aucun aveu. Il se rétracte après la diffusion des images de la reconstitution. Il dit qu'en réalité, il n'est jamais allé à la villa ce 24 décembre 2005. Alors pourquoi avoir raconté ce mensonge, lui demande le président de la cour. L'accusé demeure silencieux. 8 jours de procès suffisent pour le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité. De retour à la prison de Lausanne, François Légeret décide de se battre pour faire reconnaître une erreur judiciaire. Dans ce combat, il n'est pas seul. De nombreuses personnes l'accompagnent, dont certains de ses proches, des journalistes, mais aussi de parfaits inconnus. Des groupes Facebook de soutien sont montés et un reportage est diffusé à la télévision en 2010. L'émission suisse « Zone d'ombre » revient sur l'affaire Légeret avec un nouveau témoignage qui pourrait tout changer. Ce 24 décembre 2005, aux alentours de 17h, Madame Albenesi, qui tient une boulangerie, voit arriver dans sa boutique ses 2 dernières clientes de la journée. 2 ans plus tard, elle s'en souvient bien, puisqu'elle s'apprêtait à fermer. Ses clientes retardataires ne sont autres que Ruth Légeret et sa fille Marie-Josée. Elle précise qu'elles sont venues lui acheter une boîte de chocolat et des pâtisseries. Un témoignage qui, en théorie, devrait innocenter François, puisque l'enquête prétend qu'il aurait tué sa mère en fin de matinée. En mars 2010, un nouveau procès doit se tenir à Lausanne. Mais l'intervention d'un détective privé engagé par Simon fait office de sabotage. Quelques jours avant le début du procès, Madame Albanesi reçoit une lettre anonyme. Celle-ci dit qu'un détective privé a enquêté sur son passé trouble d'alcoolique et sa tendance à battre ses enfants. La réception de cette lettre a grandement perturbé le témoin pendant le procès. À la barre, elle dit qu'elle n'est plus sûre de rien, qu'elle s'est peut-être trompée. La cour d'appel condamne à nouveau François Légeret à perpétuité pour un meurtre et 2 assassinats. Le condamné refuse d'en rester là. En juin 2022, il dépose une demande de révision de son procès. Son dossier ne fait pas moins de 91 pages, rédigées par ses soins depuis sa prison, sans l'aide d'un avocat. Il a recueilli le témoignage du fils de la boulangère. Lui soutient que sa mère n'a jamais été folle et se souvient très bien que sa mère lui avait parlé de ses 2 dernières clientes le soir du réveillon. François prétend également que les traces ADN présentes sur la chemise de sa mère et sur les ciseaux n'ont pas été découvertes tout de suite. Selon lui, quelqu'un les aurait volontairement placées sur les pièces à conviction, car il n'y avait pas assez de preuves pour le condamner. Cette thèse d'un complot à son encontre est alimentée par le fait que l'instance a refusé d'auditionner un médecin légiste du Centre universitaire roman de médecine légale qui aurait pu l'attester, selon lui. De plus, les accusations reposaient sur des affirmations délirantes de la part de son frère. Simon aurait dit à 2 inspecteurs de police que sa femme fait régulièrement des rêves prémonitoires. Elle a vu en rêve François tuer sa mère, Marina et Marie-Josée, avant de mettre le corps de sa sœur dans le coffre d'une voiture. Simon affirme que le cadavre de celle-ci repose quelque part au col de Jarn. Le récit peut sembler fantaisiste, et pourtant, les enquêteurs auraient choisi de le croire. Des recherches ont été menées sur ce col sans qu'aucun corps n'ait été retrouvé. En février 2024, le tribunal fédéral rejette la demande de révision. 10 ans auparavant, François Légeret avait fait une première demande à la Cour européenne des droits de l'homme, demande rejetée. Le double meurtre de Vevey et la disparition de Marie-Josée Légeret restent, encore aujourd'hui, pleines de zones d'ombre.